Pour cet épisode des Bienveillants, on reçoit Eric Kamalaboulian, qui est un scénariste et un de nos amis. On a eu une discussion passionnante. On espère que vous allez apprécier l'épisode. Bonne écoute! Ça va bien?
Oui, ça va bien, vous autres?
Ça va super bien, toi, Raph?
Très bien.
Donc, on commence tout de suite. Moi puis Raph, on voulait savoir... comment ta cinéphilie a pris forme, les origines de tout ça, ton intérêt pour le cinéma?
OK, ma cinéphilie a pris forme. Écoute, ça a pris forme assez... ça a pris forme tôt, moi, en fait. Je viens de la Malbaie, je suis né à la Malbaie dans Charlevoix, puis il y avait un petit cinéma là-bas, puis déjà quand j'étais jeune, ma mère connaissait le propriétaire du cinéma, puis des fois quand elle avait des soirées entre amis, elle avait des soirées entre amis, elle me dompait.
Elle allait te parquer au cinéma.
Elle allait me parquer au cinéma, genre tiens, amuse-toi, puis fait que j'y allais quand même souvent assez tôt, mais c'était très restreint, en fait. Puis jusqu'à mon secondaire, ça se limitait quand même à, tu sais, des gros films américains que tu voyais. Puis parce qu'en région, t'as pas le cinéma plus pointu, tu l'as pas, en fait. Puis ça a été vraiment... on dirait que ma cinéphilie est venue beaucoup au secondaire avec des amis, mon ami Frédéric et mon ami Pierre-Luc. Par les films d'horreur, en fait. On a commencé à écouter bien des films d'horreur. Puis au club vidéo, ils avaient souvent, genre, tous les Vendredis 13, tous les Freddy. Puis à un moment donné, ça nous a animé. On a commencé à faire nos soirées qu'on appelait le cinéma psycho. Puis là, maintenant, on a commencé à enregistrer des films un peu à Télé-Québec. Puis, tu sais, à un moment donné, regarder plus l'échelle de Jacob, puis des shit de même. Puis à un moment donné, on a comme... passé à travers le club vidéo de la place, puis là, on a comme mis la main sur le guide de la boîte noire, puis on a commencé à commander des films, ouais, parce que décommander des films de Montréal, parce que là, j'étais à...
Preniez les 1 étoile,
on cherchait un peu, genre, thriller psychologique, un peu, genre... fucké, puis maintenant, tu sais, le premier qu'on a commandé, c'était genre Blue Velvet, parce que Blue Velvet, genre à Baie-Saint-Paul dans un club vidéo.
Mais, excuse-moi, je t'interromps, mais... il voulait livrer, je veux dire...
Mais tu pouvais acheter.
Tu l'achetais carrément.
Tu l'achetais carrément. Tu achetais le film. Genre, il y avait une boutique de vente de VHS.
Ah, ben oui.
Okay. Puis tu commandais à partir du catalogue, puis la boîte noire le livrait chez toi.
Ah, wow.
Fait qu'on a commencé à recevoir des films, puis ça a été vraiment là, à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en acheter, puis plus à enregistrer des trucs sur Télé-Québec. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis... ça m'a donné la piqûre à ce moment-là. Puis le cégep Garneau faisait des... en fait, il y a plusieurs cégeps qui venaient à...
avant que tu ailles plus loin,
t'as
soulevé un sujet qu'on n'a pas encore parlé dans le podcast, c'est l'immense collection de Télé-Québec, là, qui était comme... tu sais, dans le temps que les gens regardaient encore la télé, là, tu pouvais tomber sur des classiques du cinéma, puis... tu sais, quand on est adolescent, on a plus l'ouverture d'esprit, je trouve, de se taper des films comme ceux-là que quand on devient adulte. Puis moi, j'ai vu plein de films après que je savais pas que c'était du cinéma d'auteur, mais qui m'avait marqué. Tu sais, il y a comme quelque chose qui parle à l'inconscient là, dans le cinéma d'auteur quand tu tombes là-dessus par hasard quand t'es ado, tu sais, puis que j'ai revu plus tard, puis j'ai réalisé que j'avais déjà vu comme The Naked Lunch, pas dû voir à cet âge-là.
Mais... je pense que c'est ça, un coup que ta curiosité est piquée, je pense que oui, c'est comme tu dis, t'as comme une ouverture qui est là. Puis même moi, je me rappelle, j'avais eu un moniteur au terrain de jeu qui s'appelait Simon. Puis on continuait à se parler un peu. Puis quand il a su qu'on commençait genre à écouter des films tout ça, avec mes amis, il m'a suggéré bien des affaires. Puis maintenant, il m'a donné une cassette. Il y avait genre Le Conformiste de Bertolucci. Il y avait du Kiesowski aussi. Il y avait genre Tutura Point. Il m'avait mis genre du Kusturica, genre Le Temps des Gitans. Mais tu sais, t'es comme le kid de Baie-Saint-Paul qui écoutait juste toute la... pas la crap, mais tu sais, qui écoutait quand même le cinéma populaire. Tu sais, j'avais vraiment mis genre... la main sur quelque chose. J'étais comme, oh, les shit, il se passe des affaires que je suis vraiment pas habitué.
Mais Le Conformiste, c'est un film qui s'est passé sous le manteau pendant longtemps, tu sais, qui a pris super. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il sorte en DVD. Les VHS avaient arrêté d'être édités depuis. Il y avait une seule édition en VHS, je pense, puis il avait arrêté. C'est un film qui était comme disparu de la map. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont fait passer des bootlegs. Du Conformiste, c'est à peu près le seul moyen de le voir.
C'est intéressant, je trouve, en tout cas. Puis c'est une belle liste romantique pour un adolescent, en tout cas, je trouve. Là, c'est pas tout ce que tu dis là, moi, c'est arrivé tellement plus tard dans ma vie. Ben, c'est vraiment cool. Là.
Mais ça a été une petite portion, mais après ça, c'est juste que, mettons, là, j'avais envie d'en avoir plus. Puis quand, en fait, c'est ça, Manny, comme...
Il y en a que c'est les Pokémon, toi, c'était les films d'auteur. Attraper les deux.
Le catch est mort. Mais, puis après ça, quand c'est ça, il y a comme le cégep Garneau, puis d'autres cégeps qui étaient venus à mon secondaire, puis c'est là qu'il y avait fait... Il y a un programme de cinéma au cégep. J'étais comme, holy shit, je peux aller étudier le cinéma. Puis quand je suis arrivé à Québec, la première affaire que j'ai faite, c'est aller dévaliser les clubs vidéo d'affaires que j'avais jamais eu, genre... à Baie-Saint-Paul, puis là, j'ai écouté des films, puis là, comme j'allais encore plus deep, puis j'ai vidé, puis... Mais tout ça avait commencé avec un échantillon qui était un bon échantillon de départ, bon, là, mettons.
Ben ouais.
Je pense que c'est ça. Ben des gens qui avaient fait une belle job, dont les programmateurs de Télé-Québec.
Ouais, puis ça s'est perdu un peu, hein. Je veux pas trop les critiquer, puis la réalité a un peu changé, puis le public suit moins, mais je trouve ça un peu moins intéressant que ce l'était, à moins que ce soit un regard juste romantique que j'ai, le nostalgique, mais surtout... À l'époque, c'était l'inversion originale avec des sous-titres.
Avec des sous-titres. Ouais, absolument.
Ça, c'était extraordinaire. Puis ça, tu sais, souvent, je regarde la programmation, je suis comme waouh, mais je recommande à personne parce que je me dis, allez vous taper un film traduit en français. Ouais. Surtout ces films-là, de grands acteurs et tout ça, là, qui valent vraiment la peine d'être entendu chanter, en fait. Là,
il me semble que TFO aussi, qui avait fait une belle job aussi il y a quelques années.
Ils ont une meilleure collection encore que Télé-Québec.
Ouais, mais tout ça.
Ils l'ont acheté en batch dans le temps que ça coûtait pas cher, puis ils ont encore les droits sur ces films-là. C'est comme ça que ça avait fonctionné.
Mais on m'avait dit aussi, puis là, je veux pas non plus clouer personne au pilori, là, mais on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui tenait ça vraiment à bout de bras, là, avec bien de l'inventivité puis de la passion. Puis quand cette personne-là est partie, ça a commencé à décliner un peu. D'ailleurs, la collection en ligne est beaucoup moins intéressante depuis 2-3 ans. Là, fait que... Mais oui, absolument. Ça vaut la peine d'aller voir des fois, là, pour les gens qui ne le savent pas, mais tfo.org, il y a des films qui sont là, disponibles gratuitement en streaming, puis il y a tout le temps quelques perles.
Il y a Hélène Faragie aussi qui travaille pour Radio-Can, puis elle s'occupe un peu des blogs pour cinéma, puis tout ça, puis elle fait une entrée de blog aussi qui s'appelle comme le trésor caché de Tout.tv, puis même sur Tout.tv, il y a quand même des trucs quand même assez intéressants, parce que c'est vrai que on dirait qu'avec la mort de la télé un peu, des fois, le hockey boomer en moi se demande, mettons le kid de Baie-Saint-Paul aurait-il cherché où cette espèce de feeling-là d'aller creuser puis de le trouver sur Netflix, tu sais, il n'y en a pas ces classiques-là, tu les as pas.
C'est dur de stumble upon, de tomber par hasard sur un film
sinon, tu sais, après ça, tu as le Criterion Channel, mais je me serais pas abonné.
Ah, il manque une marche.
C'est ça, il te manque un step pour te rendre là, puis tu sais, on dirait que... Je suis comme, mais tu vas aller le chercher où, ce déclic-là, cette espèce de
avec le podcast
flamme-là.
Les Bienveillants.
C'est un peu
l'idée derrière tout ça. C'est la disparition de la boîte noire, c'est la dématérialisation du cinéma. Tu sais. On en parle un peu dans notre premier podcast.
Ouais,
comment pour nous, on espère pouvoir toucher un jeune ou une jeune de région. Peut-être, on fait une saison complète, puis on a accroché 4-5 personnes seulement à Rimouski puis à Pointe-Calumet ou à Ville-des-Gilly.
Moi, j'avais une tante qui s'intéressait quand même beaucoup au cinéma français et européen. Elle était quand même au fait de ce qui se faisait, parce que dans mon village, il n'y a pas vraiment de cinéphile. En tout cas, à l'époque, là, j'ai pas eu de guide, si on veut. Et puis, elle m'entourait quand même dans le super écran des fois, des choses à voir.
Ouais.
Ouais. Puis, des fois, ça me disait rien, comme 37 degrés 2. Je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir vu jeune. J'aurais aimé ça, je pense. Mais je me souviens d'avoir vu à super écran.
Il y a eu des bouts de blurry sur la cassette parce que tu reculais trop.
Ouais, c'est ça.
Comme le party. Hein, que...
Mais je me souviens quand même d'avoir vu à super écran Blue Velvet. Mais c'est ça. Même aujourd'hui, il faut que quelqu'un t'aiguille, t'amène là. Parce que je suis pas mal certain que Blue Velvet, à l'époque, pour les gens comme moi ou pour un jeune ou un néophyte, ça passe dans le bas. C'est le film que tu n'en sais pas, justement. Donc, ouais, ça prend un peu de guidance. Là, je mets ça en guillemets, mais...
Oui, je pense que c'est important. C'est drôle, si tu parles de super écran. Moi, j'avais vu quand j'étais chez ma tante, j'étais tout petit, genre, au primaire, puis ma tante de Notre-Dame-des-Monts, elle avait super écran. Puis j'avais eu un truc, Puis c'était un espèce... Ça se passait... Il y avait un souterrain, c'était super futuriste. Puis il y avait des cow-boys, tu sais. Mais à ce moment-là, je savais pas c'était quoi. Puis c'est une image qui m'avait hanté. J'étais comme, crime, c'était super minimaliste. Un souterrain, il y a des cow-boys, je comprends rien. Puis c'est une image qui m'avait vraiment obsédé longtemps. Puis quand je suis arrivé à Québec, j'ai pu finalement mettre la main sur Westworld. Où est-ce que mon prof a fait... J'ai vu ça quand j'étais kid, puis ça m'a vraiment resté dans la tête, puis je sais pas c'est quoi, puis il dit, ben, c'est Westworld.
Ah ouais, hein?
J'ai redécouvert Westworld à Québec, puis ça reste
un de mes films... Ils ont fait la série après.
Oui, ils ont fait la série après, mais ça reste un de mes films préférés à vie, parce que, tu sais, je pense que c'est la première image de cinéma qui m'a marqué, qui m'a
rentré dans ton inconscient.
Qui est rentré, puis qui m'a...
J'ai vécu la même chose avec The Naked Lunch. The Naked Lunch, il doit être genre minuit, mes parents dorment, je me lève, puis là, tu sais, je mets la télé pas fort pour voir un film à super écran. Puis je tombe sur The Naked Lunch. Puis naturellement, j'oublie ce film-là, mais pendant toute mon adolescence, je suis hanté par des images de gens qui sont à moitié humains puis à moitié insectes, comme quelque chose de répugnant qui me reste en tête, là, puis que j'arrive pas à me débarrasser. Puis j'avais vu un genre de Ultraman, genre japonais ou je sais pas quoi, où les méchants transformaient les humains en insectes, puis il y avait comme un policier à moitié insecte, à moitié humain, puis j'étais comme... C'est pas ça, je ressens rien en voyant cette image-là. Mais cette image-là de... En tout cas, finalement, tu sais, quand j'arrive à Montréal puis je commence à louer des films, je loue The Naked Lunch, puis ça commence, puis comme... Blast from the past. Fait qu'on a vécu un peu le même
Moi, j'ai regardé ça dans mon sous-sol. Tu sais, j'avais la cassette, puis je shakais. Mais non, c'était un DVD que j'avais. Puis je shakais quasiment parce que je l'avais finalement trouvé. Puis j'étais comme, mon Dieu.
Mais
je me suis batté un peu. Puis j'ai comme si... Je pense que ça a été ma... une des meilleures expériences.
C'était à la hauteur. Parce que moi, j'ai...
Absolument, ça a été à la hauteur. Oh, oui.
Cet équivalent-là, pour moi, là, le punch était un peu moins le fun, mais c'est un film français qui s'appelait Le Pullover Rouge, ou L'Homme au Pullover Rouge, en tout cas, bref. Puis c'est un condamné à mort, c'est son procès, ça va pas bien. Puis ça m'avait quand même marqué, les images, puis la violence de ce film. J'étais très jeune, j'avais 9-10 ans. Puis j'ai jamais retrouvé, c'est pas un film qui a marqué, je pourrais même pas te nommer le réal. Puis moi, je pensais que le film, ça s'appelait Le Pull Rouge. Non, Le Pull Vert.
Ouais. Ah, Le Pull Vert.
Ouais, Pull Vert Rouge. Puis j'étais comme, bon, puis ça a pris du temps, puis à poser des questions à des professeurs, des amis cinéphiles. Un jour, j'identifie le titre, un jour, j'identifie où je pourrais le trouver, c'est pas disponible. Je l'ai reçu un cadeau d'un ami, peut-être 5 ans, puis je l'ai pas encore regardé. J'ose pas, on dirait. Je trouve le souvenir...
J'ai pas
un grand souvenir du film parce que je pourrais pas te le raconter, mais l'impression qu'il a laissé en moi, j'ai comme peur d'y aller. Un, j'ai peur que ça me trouble autant ou que je sois carrément juste comme indifférent finalement, que ce soit un navet ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je le garde, il est chez nous, il existe, il est prêt.
Peut-être prendre du trop longtemps. Peut-être laissé jinxer, on dirait.
Peut-être, ouais, j'ai trop pensé, mais ça, c'est un peu l'histoire de ma vie.
J'ai le même rapport avec Génial, mes parents divorcent. En soi vrai, je déconne.
Mais moi, on dirait que j'ai couru tout de suite. Là. Quand j'ai su le titre, j'ai comme un loup, puis tout de suite, j'ai comme fumé un bat, puis comme, je me plonge là-dedans, puis ça a été comme, oh my god, le fucking Gunslinger avec Yul Brynner, c'est genre trop. Mais c'est un film que j'ai dans mon cœur maintenant.
Mais ouais, Le Pullover Rouge de Michel Drac, qui est réalisateur et producteur. C'est un film de 1979.
Ah ouais? Y a-tu l'appréciation? Y a-tu une cote?
6.9 sur 10 selon IMDb, bon, mais c'est pas vois, fiable.
C'est ça, j'ai peur de ça. J'ai peur d'un 6.9, tu sais. Je veux savoir un 4 ou un 9, tu sais. Mais bon, c'est des gens qui le voient, effectivement, ils pourraient nous relancer là-dessus. Tantôt, tu parlais du cinéma, ta mère a parké au cinéma et tout ça. Moi, ça m'a juste évoqué une image, j'ai envie de la dire, mais ce qui me manque aujourd'hui dans l'expérience cinéma, là, d'aller en salle, c'est de sortir directement de la salle à la rue. Je sais pas comment il était configuré le cinéma dans ton coin, mais en plein jour, là, le choc, là, l'espèce de travail d'iris que nos yeux avaient à faire, là. Tu sais, tu sors de la noirceur au soleil total. Moi, c'est des souvenirs de cinéma d'enfance incroyables. Aujourd'hui, ben, on passe à travers l'arcade, puis la machine à popcorn, puis le lobby. On arrive dehors, puis notre œil s'est habitué. Mais...
Ça ressemble à la sortie du stéréo à 9h du matin.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça avait pas de prix. C'était... Je pense que des fois, c'était une motivation supplémentaire d'aller voir le film le dimanche après-midi.
Mais non, t'avais comme une porte, t'avais un escalier, puis c'est vrai, c'était tout de suite
ça
la salle.
Ça arrive vite, là. Puis
je suis retourné dernièrement justement à cette salle-là parce qu'on a présenté Les Barbares de la Malbaie là-bas. Puis on dirait que quand je suis rentré, on dirait que j'ai eu des souvenirs de cette salle-là.
Les odeurs n'ont pas changé.
Ah ouais, t'as présenté ton film dans cette salle-là.
Ouais, mais on l'avait présenté avant qu'on explose, donc j'avais pas pu y aller. Puis, mais là, j'ai pu y aller pour Les Barbares, puis on dirait que j'avais hâte de rentrer justement, puis de revoir la place, puis voir si tu comme un peu comme dans mes souvenirs, tu sais, dans ma tête, c'était immense, tu sais, mais après ça, je me suis dit, comme, ben, ça va être vraiment plus petit que je pensais, mais tu sais, finalement, c'était quand même...
Ça serait pas aussi petit que le cinéma moderne.
C'était pas si petit que ça. C'était quand même une grande salle. J'étais assez impressionné.
Ben, souvent, dans les villages, les salles hein, sont été conçues pour recevoir toutes sortes de choses. Fait que, ouais. Il y avait bien des bancs. La salle dans mon village à Dégely, là, ils ont fait des rénos passés de 600 à 325. Une affaire de même.
Ah ouais.
Ah oui, c'était des bancs vraiment étroits, là, les genoux dans le front. Puis là, ils ont décidé d'avoir des bancs un peu plus. c'était énorme.
Bonne affaire,
550 ou 600 bancs. T'es pas obligé de répondre, mais t'es-tu comme une célébrité dans ton village, ton patelin?
Non.
T'es pas l'équivalent de Raphaël à Ville-des-Genoux.
Non, c'est ça.
Non, mais c'est pas là, je vois pas. Mais c'est pas le cas non plus nécessairement,
Ben, tu sais, genre.
C'est pas le retour de l'enfant prodige quand t'arrives avec ton film ou.
Non, absolument pas. Mais tu sais, mettons, ma famille, ils sont comptés. À le projet au des Barbares, on faisait comme une espèce de première, ouais, mettons, cool, là-bas. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, mais tu sais, c'était quand même beaucoup de ma famille, il y avait des amis, tu sais, je pense pas. J'ai pas un statut de je reste un fucking scénariste.
Ouais, t'es un peu dans l'ombre.
Je pense que si j'avais joué dans une coupe d'affaires, peut-être que là, ce serait comme holy shit. Mais...
Ils ont pas vu Petit Frère.
Non, c'est ça, ils ont pas vu Petit Frère.
Ils ont vu 19-2.
ils ont pas vu 19-2, mais je sais pas s'ils ont fait le lien. Mais, tu sais, après ça, mettons, la radio va m'appeler pour faire des entrevues, puis ça, probablement qu'ils le feraient avec aucun scénariste ever, mais vu que je viens de là, ils le font nécessairement, mais.
Non, mais le fait que ton film ait été fait là aussi, tu continues à t'intéresser, tu en parles, tu t'affiches, tu es comme une forme d'ambassadeur quand même.
À la limite, c'est oui, mais on dirait que. Mais tu sais, après ça, je demande rien, mais tu sais, des fois, on dirait que je suis juste. Des fois, je peux demander au monde de me lâcher un peu, de laisser tranquille un peu. Tu sais, il y a eu comme des affaires de. Avant qu'on explose, tu sais, en tout cas, c'est long, là, mais on est dans un podcast. Avant qu'on explose, ça passe à Baie-Saint-Paul, mais il y a comme une guerre entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, mettons. Dans Charlevoix, c'est un peu comme. C'est tendu, mettons.
Okay.
Puis, il n'y a pas de cinéma à Baie-Saint-Paul. Fait qu'on a décidé de faire une espèce de projection au cinéma à la Malbaie. Mais là, les gens de Baie-Saint-Paul se plaignaient qu'on ne présentait pas, genre, le film. Puis, je recevais des courriels de madame fâchée. Oui. Puis ouais, j'étais comme, ben, t'as peur, madame, là, tu sais, j'ai allé tourner un fucking film, genre, j'ai écrit un fucking film qui a fait rouler l'économie un peu de la place, tu sais, c'est Baie-Saint-Paul, on entend parler de Baie-Saint-Paul, je pense que j'ai fait un peu ma part. Puis il y a une affaire, quand même, aussi, avec les Barbares, un moment donné, que, tu sais, le titre, il y a des gens de la place, là, dans Charlevoix, là, que ça les a vraiment dérangés, Barbares de la Malbaie, ils étaient insultés, parce que, tu sais, ça les fait mal paraître, puis je suis comme, c'est le nom d'équipe de hockey, tu sais, puis je viens de la Malbaie, puis encore là, j'ai co-écrit un film qui, tu sais, ça se passe à la Malbaie, tu vois la Malbaie, puis moi, je suis comme, mais vous me donnez un break?
Ouais. comme vécu une expérience à la Vincent Vallière, là, qui avait été condamné pour son film, sa chanson sur la Côte-Nord, je sais pas quoi.
Fait que j'écrirais plus rien qui se passe chez
moi. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, fait que là, t'es rendu cinéphile, tu regardes tous les films, tu rentres au cégep, c'était quoi le nom du cégep?
Garneau. François-Xavier Garneau, ouais.
Comment tu deviens cinéaste, tu deviens scénariste, tu commences à vouloir en faire?
Hey, scénariste, pour vrai, ça a été une longue, tu sais, le cégep, ça a été incroyable parce que j'ai découvert plein de films, j'ai découvert une gang aussi qui sont encore mes amis, mais beaucoup de mes précieux collaborateurs sont des gens que j'ai rencontrés au cégep. Puis après ça aussi, au cégep, ça a été une ouverture aussi à une nouvelle. Un cinéma. J'avais déjà commencé avec une cinéphilie un petit peu plus pointue, un petit peu plus cinéma d'auteur, mais là, ça continue encore plus parce qu'on arrive au cégep, on avait un cours de cinéma hollywoodien, puis ce qu'ils nous disaient, c'est bon, là, vous écoutez juste de la marde, puis je vais vous dire pourquoi. Puis ça a été vraiment comme. Je vais faire attention, ça a l'air que j'utilise pas bien le micro. Désolé à la maison. Oui, c'est ça. Fait que ça a été comme une espèce de passe où est-ce que j'ai consommé bien du cinéma, mais sans savoir ce que je voulais faire, en fait. Puis ça a été, quand je l'ai décidé d'aller à l'université, encore là, j'étais arrivé là-bas, je savais pas trop quoi faire, j'avais quand même une base au cégep, puis je cherchais vraiment ma place, puis à un moment donné, je m'en suis un peu crissé de mon université, puis j'ai fini genre mon université en étant assistant réel sur un documentaire, là, vraiment très loin de ce qui m'intéressait. Fait que j'ai comme sorti de là, t'as un diplôme, t'as comme un bagage que t'as accumulé au fil des années. Je travaillais genre à Boîte Noire justement à cette époque-là. Fait que j'avais comme bien des affaires, j'aimais le cinéma, je voulais faire du cinéma, mais Chris, j'avais pas quoi faire. Puis c'est là que j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre des fois, puis à commencer à écrire des courts-métrages. Puis c'est là que j'ai fait, ah, il me semble, c'est ça que j'aime. Puis j'ai commencé à essayer d'être scénariste.
Le court-métrage est arrivé avant avant la web-série ou...
Ben, j'écrivais les courts-métrages, mais mes premières gigs payantes, ça a été la web-série. Ouais. Ça a été les web-séries que j'ai faites avec Kim Saint-Pierre.
De Pixel Mort.
Pixel Mort, ça a été ma première gig payante. Hein. Fait que j'ai été payé pour la faire avec des subventions qu'on a eues. Après ça, le chum de ma mère est un extraterrestre. Puis j'ai jamais eu de subvention pour écrire des courts-métrages, ni pour les faire. On avait essayé une couple de fois, jamais eu d'argent, mais on continuait quand même de faire des courts-métrages avec notre propre argent chaque été, puis en faisant comme, bah, on va essayer des affaires, puis on va se garder en forme, des courts-métrages qui faisaient petits festivals, les rendez-vous de temps en temps, le FICFA, Fantasia. Puis je travaillais beaucoup plus en télé un moment donné, puis j'étais vraiment plus à cause du web, on dirait que je me suis trouvé des gigs en télé comme scripteur, puis des trucs, mais ça a vraiment été Petit Frère un moment donné qui a été fait comme tous les autres courts-métrages qu'on a fait avant. Puis celui-là, il a marché. Puis
C'est quoi la jeunesse de Petit Frère? C'est une belle histoire, Petit Frère, tu sais. Comment ça a commencé, cette histoire-là?
Ben, Petit Frère, ça a été deux affaires. Ça faisait un bout qu'on parlait, moi, puis Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon, qui est...
Jean Sauce.
qui est un collaborateur et producteur, que j'ai produit des trucs avec lui quand on faisait des trucs avec notre propre argent, puis qui est un preneur de son aussi. Puis on parlait souvent qu'on voulait être grand frère, en fait, qu'on voulait...
Non, moi aussi, c'est un truc que j'ai toujours
je sais pas si t'es-tu enfant unique ou...
Non, j'ai un petit frère, mais j'ai raté mon coup. Fait que, j'étais vraiment un bully incroyable, fait que je voulais comme me racheter aux yeux de Dieu, là. Non, c'est Jésus.
Mais nous autres, on est enfant unique, puis ça a été vraiment tout le temps, on s'est toujours dit, genre, ça serait le fun qu'on s'inscrive à ça, puis on l'a pas fait. Mais ça a donné quand même une idée sur, pour faire ce court-métrage-là, vraiment juste un grand frère, un petit frère qui passe une journée ensemble, qui déconne, puis c'était vraiment juste un, on fait encore un film cet été, on fait pas d'argent. Ben, Rémi avait eu comme un peu des bourses à prendre secours pour des trucs de post-prod, puis, mais c'est encore dans l'idée de, bah, on va le faire, on sait pas si ça va se ramasser, ça nous a coûté genre 800$, c'était vraiment un projet d'été, on va le faire. Moi, j'avais travaillé avec Étienne Gallois, puis sur la web-série « Le chum de ma mère est un extraterrestre ». J'avais vraiment écrit pour moi puis lui, c'était comme une espèce de cadeau que je nous faisais, ça me tentait de jouer avec, puis c'était vraiment juste un... On s'est inspiré, genre, cinéma américain, c'est comme on va aller shooter dans la rue, on va pas se trouver de
John
permis.
Cassavet un peu, c'est bon,
ben,
c'est ça?
Bumblecore, non?
Ben pas, plus Clerks, mettons.
Ah, ouais, ouais. Ben, ouais, tu as bien raison.
Plus Clerks, puis...
Le cinéma du New Jersey.
Exact, New Jersey. Mais tu sais... vulgaire auteur avec noir et blanc fauché, tout ça, puis c'était comme on ne demandera pas de permis, on va tourner à botch, ça va être en noir et blanc, ça va être tout croche, on va tourner ça en 2-3 jours, puis des fois tu prévois pas, puis c'est ça qui m'a ramené dans le cinéma, puis c'est ça qui a starté un peu après ça.
Parce que le film se ramasse à Cannes, tu le dis pas, mais moi je vais te dire.
C'est ça le gros truc.
Ça fait tout le temps pense bon. Cool.
Non, mais c'est quand même, c'est vraiment cool, tu sais, puis moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, là, mais ça enlève rien, mais c'est quand même surprenant justement, t'sais, pas de réseau de contact, pas de production value, t'sais, c'est vraiment une histoire, deux gars, puis du jeu super sincère, puis beau travail aussi de Rémi, mais c'est quand même un peu, pas un ovni, mais un ovni à Cannes.
Mais te dire à quel point on s'en attendait pas, t'sais, c'était vraiment... Puis en fait, moi j'avais même, t'sais, c'était quand même c'était en 2013 qu'on l'avait tourné, on était à Cannes en 2014, fait qu'en tout cas... Ça a été... tu sais, même moi, je connaissais... Je savais pas trop ce que ça représentait. Tu sais, il y a un moment donné, il y a le distributeur Traveling qui nous a dit « Hey, vous savez pas dans quel... où votre film est présélectionné? » Tu sais, puis j'étais comme « Je sais pas. Moi, à Cannes. » Je suis comme « OK, à Cannes, malade. » Il me dit « Ouais, mais à la semaine de la critique. » Je suis comme « OK, what the fuck is that, la semaine de la critique? » Tu sais. Puis là, j'avais mon ami Nicolas Krief, puis là, je le texte. Je suis comme « C'est cool, la semaine de la critique? »
Ah, ouais, hein?
Pour vrai, je connaissais « fuck all ». Fait que, tu sais, il y a quelque chose de bon là-dedans quand j'y repense. Tu sais, quand on a été préparé ça, quand on a su, genre, pas longtemps après qu'on a été présélectionné, ça a pas été une longue attente de genre, asti, on va-tu y aller, on va-tu pas y aller. Genre, 2-3 jours après, pendant que j'étais en bobette en train de jouer au PlayStation, Rémi, il avait checké dans ses junk mail. Puis,
ah ouais.
Genre, le dos de la scène à critique était comme, ben, bienvenue à Cannes.
Puis... Dans ses junk mail.
Oui, dans ses junk mail, pas vrai.
Ben, tu ris, mais quand t'attends une réponse d'un festival, ouais, tu checkes tes junk mail.
Fait que, tu sais, on savait que c'était un festival d'envergure. On n'est pas cave, tu sais, mais on... pour vrai, tu sais, je
c'était
pas...
un festival d'envergure.
Non, mais dans le sens, c'était Cannes, mais...
C'est le festival.
Oui, mais dans... pour... honnêtement, très honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, c'était pas genre, asti, ça va être ma carrière, je vais aller rencontrer du. Tu sais, on est arrivé là-bas, je suis comme, Chris, on va aller faire le party, ça va être malade, j'avais pas une connaissance de scène à ce moment-là. Fait que, tu sais, je m'en rappelle, puis il y avait pas une pression, aucune pression qu'en tout cas que moi je me suis mis. Je suis arrivé là-bas, je déconnais avec beaucoup, bien plus les stagiaires de la semaine de la critique qui étaient vraiment smart, puis tu sais, je déconnais avec eux autres, il y avait comme. Ça a été quand même bénéfique d'arriver là-bas, puis tu sais, pas trop stressé non plus avec le standing ou whatever. C'était très. Candide, devrais-je dire, mais très naïf, en fait.
Puis, ouais. Mais sur place, ça, ben, c'est vrai même pour bien des films, des longs-métrages. Fait que sur place, ça a-tu eu un impact ou c'est vraiment après ton nom circulé, après tu as été pris au sérieux par les institutions?
Ben, ça n'a pas eu un impact international, mais ça a eu un impact de là-bas. Tout de suite, ça a été comme toutes les cartes des producteurs, mm-hmm. genre... du milieu, mais québécois, mettons. Oh, ouais. Puis, on avait comme une shit carte, whatever. Puis on était mangé avec Christian Larouche, puis c'est là qu'on a fait avant qu'on explose. En mm-hmm. fait, qu'on a signé pas mal de deals d'avant qu'on explose, parce qu'on avait déjà un petit pitch de ce qu'on voulait faire, moi puis Rémi, comme premier long métrage. Fait que ça a permis ça. Pour moi, Cannes, la suite, ça a été avant qu'on explose. Puis on espérait qu'avant qu'on explose, y aille, mais finalement, ça s'est pas passé. Mais fait que, ouais, ça a quand même donné lieu à ce long métrage-là.
Y a-tu eu un changement de garde entre-temps là-bas ou c'est juste parce que le film n'est pas nécessairement dans leur code?
Écoute, tu sais, ça a été.
Parce que des fois, ça arrive. Tu es dans un festival. Moi, mettons, par exemple, là, je veux pas show off, mettons, Buenos Aires, là, j'étais comme abonné, puis un jour, il y a un petit changement de garde, puis juste ça, là, juste le. J'ai plus le même contact là-bas, pouf, plus jamais ouais. d'invitation.
Je pense qu'il y a eu un dude qui nous avait vraiment beaucoup aimé avec Petit Frère, qu'il avait vouché beaucoup pour le film, qu'il nous l'avait dit, genre, puis ça a été son gros coup de cœur. Je pense que lui, il est parti, ouais, genre, c'est... pas mal. Mais cela dit, tu sais, mais tu sais comment que c'est, là, mais t'avais fait d'ailleurs un article, Raphaël a mané, je pense, sur les...
Ouais, je pourrais le raconter. J'ai pas encore raconté au podcast. Je raconte.
C'est vrai, mais non, mais continue. C'est une bonne affaire, mais tu sais, le fameux, genre, présélectionné, là, ouais. tu sais, puis ça a été... avant qu'on explose, ça a été genre jusqu'à 3 jours avant l'annonce
oui.
qui nous faisait. Puis on avait reçu un courriel genre la semaine d'avant. Mettons, on est le mercredi, on reçoit un courriel, puis l'annonce se fait le mercredi d'après, mettons. Puis c'est comme, vous êtes encore dans la course, les jurys, le comité de sélection émet telle affaire. En tout cas, on vous tient au courant. Vous savez, des fois, il y a des choix difficiles, tu sais. Puis quand on a reçu ce deuxième courriel-là, on était comme tabarnak, tu sais.
Mm-hmm.
Puis...
Les alertistes qui vous prendront
ouais,
pas, genre.
Ben, ou qui vont nous...
Non, t'es encore vivant, tu y crois,
t'es encore
c'est
vivant,
sûr.
Puis le lundi d'après, tu sais, à partir du mercredi, on checkait, c'était rendu de la maladie mentale. Ah, ouais. Chaque fois que t'avais un ding, genre, tu checkes, j'étais stressé, je dormais pas, parce que veux pas, quand t'es au courant de l'impact qu'a Cannes, là, Mané, tu peux savoir que ça peut changer quand même une carrière,
ouais.
quand même, tu sais. Puis
ben oui.
Le lundi, on a reçu le nom fatidique pas longtemps avant qu'il fasse l'annonce. Puis là, c'était comme, ah, tabarnak, on est vraiment passé proche. Mais après ça, tu sais, c'est ça, dans l'article que tu avais fait, qu'est-ce que ça veut dire après, tu sais, c'est ça, il y en a tellement de...
En fait, c'est ça, hein, c'est comme, les acteurs vivent ça continuellement, se faire dire par leur agent, t'es arrivé deuxième. Mais t'as rien sur ton CV, t'as rien quand tu te pointes aux institutions, t'as rien quand tu veux convaincre un producteur. Hey, j'étais deuxième. Tu sais, c'est la shortlist à Cannes, ça veut rien dire. C'est même pas dans ton ego, parce que dans le cas de. À moins que je me trompe, mais avant qu'on explose, pas vraiment en fait de festival international.
Zéro.
Fait que là, t'es comme pendant.
International, non.
Pendant une couple de semaines, on te dit que t'es dans l'élite mondiale. Tu sais, t'es comme dans. Ils vont en choisir 10, là. Fait que t'es dans les 20 derniers, là. Tu sais, ou t'es peut-être dans les 12 derniers. Fait que, tu sais, tu te dis au moins, tu sais, comme après, ça va continuer. Moi, j'ai vécu ça avec Venise, avec Cannes, puis après, le néant, tu sais, ouais. fais comme... Il y avait une personne qui a cru, qui a accroché à mon film, et quand... Après, il l'a montré aux autres, tout ça, c'est comme... est tombé comme des châteaux de cartes, mais c'est fou, parce que pendant 3 semaines, non seulement tu crois que tu vas être à Cannes, mais tu crois que t'as un produit, là, international, t'as un film qui est universel, qui va parler à Planète Cinéma, tu sais.
Puis hey, tu vas à Cannes, tu rentres là-bas avec une robe brodée d'or puis une plume d'un cheveu.
Oh, oui, oui. Mais puis... moi, ce qui s'est passé, ben, j'en ai plein d'histoires de Cannes, puis je suis jamais allé. Je suis allé donner une masterclass.
Ouais.
Je l'ai déjà abordé. Ouais, j'ai déjà abordé un petit peu, mais remplacé Sébastien Pilote à pied levé. Pendant le démantèlement, lui, il pensait qu'il aurait le temps de faire une masterclass là-bas pour des jeunes qui sont dans des pays en développement. Faire du cinéma. Et à cause de l'engouement de démantèlement, il n'y a pas pu. J'étais appelé, je suis venu, j'ai remplacé à pied levé. Mais moi, je m'étais préparé une masterclass avec Manon Dumais qui l'animait pour expliquer aux jeunes des pays en développement comment faire du cinéma avec pas d'argent, puisqu'ils viennent des pays en développement. Ouais. C'est des jeunes. Je suis tombé devant un public, c'était les prochains Iñárritu, les prochains Spielberg. Il n'y en avait rien à crisser de se pencher, là, mais rien, même pas de camion. Ça les impressionnait pas, ils étaient blasés, ils étaient déçus, je pense, vraiment, d'avoir cette masterclass. Là. Moi, c'était comme les amis, la petite caméra, il n'y a pas d'histoire banale, restez proche de votre quotidien, exploitez tous les lieux que vous connaissez. Puis ça ne s'est rien servi, je suis parti de là complètement vidé, et eux sont partis de là les mains vides.
T'avais-tu un sentiment d'humiliation?
Non, mais je me sentais un peu inutile, surtout que, puis c'était pas de la jalousie, mais surtout que je voyais Chloé Robichaud puis Sébastien, tu sais, complètement shiny comme ouais. des étoiles, tu sais, puis être au top de la pyramide, puis moi j'étais comme sur mon blues de camion, parce que camion m'avait amené assez haut dans ma tête, puis là tout à coup, tu passes de pas de héros à zéro, mais tu passes de attention à pas d'attention, là, puis de succès à pas succès. Fait que bref, pour moi, ça, c'était calme. Mais sinon, rapidement, j'en ai plusieurs, mais derrière moi, qui est comme pour moi la meilleure, derrière moi, le sélectionneur vient à Montréal, visionne le film, aime le film et demande à la personne de Téléfilm qui accompagne les visionnements à Montréal parce que les sélectionneurs viennent...
Sélectionneur de Cannes.
De Cannes, viennent à Montréal et visionnent tout le cinéma canadien, en théorie. Ils peuvent l'écouter au complet ou non. Et quand il accroche pas. Puis en général, ils repartent avec 2, 3, 10, 5 films, tu sais, dans leur valise pour montrer à leurs collègues là-bas à Paris. Et moi, je pense que c'était la quinzaine, en fait. Okay. C'est super prestigieux aussi. Et ça se fait pratiquement jamais. Moi, en tout cas, je connais pas d'autres amis à qui c'est arrivé, là, de collègues cinéastes. Le sélectionneur demande à la fille de Téléfilm, je veux parler à Raphaël. Il est dans la salle, il vient de finir le film. Il m'appelle. Moi, je me souviens, j'étais en tournage comme réalisateur avec les pieds dans la marge au Chute Montmorency. On fait de l'escalade de glace.
Une autre affaire, là.
Ouais, on fait de l'escalade de glace. Moi, je suis en bas avec la caméra puis le caméraman. Je réponds parce que c'est Téléfilm Canada sur mon téléphone, je me trompe pas. Ou en tout cas, dans ça, là, je répondais au téléphone, j'avais besoin de job. Fait que, il me fait, écoute, il m'encense. C'est incroyable. Puis le but de son appel, c'est pas de m'encenser, c'est de me demander. Parce que la fille de Téléfilm n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que le film va être prêt pour Cannes? Est-ce qu'il va y avoir... Et est-ce que tu penses mettre des sous-titres parce que c'est très régional? Et moi, je le rassure, puis je suis content. Fait que là, je raccroche, puis là, je me pars. Ça part.
Ah, mais tout, c'est de la sérotonine qui te sort par les oreilles.
Puis écoute, j'essaie des textes d'eau dans ma tête, là, tu sais. Puis t'inquiète. Puis écoute, pas très longtemps après, il atterrit à Cannes. Et là, c'est vrai, là, je veux dire, il m'a appelé pour me le dire. Il y a eu des remords. Il dit qu'il y a eu des remords sur l'avion de m'avoir fait miroiter ça. Fait qu'il il a mis en priorité mon film pour que j'ai une réponse rapidement, pour pas que je reste dans cette attente-là puis cette souffrance-là. Il a quand même été blood. Puis il m'a appelé. Il y a même pas une semaine qui s'est passée. Il m'a appelé personnellement. Puis il m'a dit « Écoute, moi, je l'aime, mais ça parle à personne sur mon équipe. » Fait que je le dis tout de suite, tu seras pas sur la shortlist. T'sais. Fait que, mais quand même, écoute, mais pendant cette semaine-là, là, t'es comme... Écoute, c'est pas rien. Là. J'ai un ambassadeur béton là-bas là, qui m'a. Puis là, après ça, tu sais, moi, j'ai.
T'as un gars qui va au battre pour toi.
Ouais, puis je parlais avec les gens de Téléfilm, t'es comme, on voit jamais ça, c'est très rare, tout ça. Fait que ouais, c'est.
Puis Xavier Dolan n'avait pas eu ses succès encore, ça. Fait que. tu peux pas dire que je me sentais comme Xavier Dolan.
Non, vraiment pas. En fait,
c'était comme tout nouveau, ça s'était jamais vu. C'est quoi ce sentiment-là?
Mais c'était drôle parce que. C'est drôle parce que ça se parlait beaucoup. En tout cas, on se communiquait beaucoup entre nous, puis même. Bon, s'il y a des gens qui l'ont vu ou qui le verront, ils croiront peut-être pas à ça, mais le 7 penché s'est ramassé sur une genre de shortlist à un moment donné aussi. Mais le grand drame de l'histoire du 7 penché, parce que c'est pas un film qui est du calibre de Cannes et qui mérite d'être là du tout, mais le grand drame du 7 penché de Cannes, c'est qu'il était présélectionné dans les 3 valises, quinzaine, semaine et certains regards. Et j'ai eu mes refus de la quinzaine puis de la semaine de la critique. Mais j'ai jamais eu le refus de certains regards. Fait qu'est-ce que tu penses le jour de la conférence de presse?
Tu sais pas
comment ça marche.
Ouais, tu sais pas comment ils vont te moins t'appeler avant.
Tu sais pas comment ça marche, tu sais, parce qu'après ça. Là, mais après, j'ai fait comme. Ok, c'est pour ça que les gens ont le logo sur leur poster quand le communiqué de presse sort. Mais écoute, j'étais plugué sur Internet, refresh. Puis quand j'ai vécu un peu une chose similaire avec le camion, mais quand j'ai vu la liste sortir, je me suis dit, il y a une erreur. Écoute, j'ai relu la liste. Je sais pas combien de fois. Ah
ouais. Mais l'essai de pencher, j'imagine qu'il était sélectionné pour son côté vidéo fait sans argent, qui était t'étais un des pionniers de ça.
Ben, non, mais c'était dans l'air du temps, je pense. C'était vraiment dans l'air du temps. Là. C'était un petit peu après Doug, mais c'était la démocratisation de la vidéo. Puis il y en a eu quand même des belles surprises de films tout croche. Puis c'était loin d'être du Harmony Korine, mais tu sais, Corinne, mais c'était loin d'être ça. Mais je veux dire, cette esthétique-là, t'es bien acceptée, je pense, beaucoup plus à l'époque. Mais aujourd'hui, le film, il serait arrêté après 8 minutes, là, je le sais, là, mais. Mais en tout cas, bref, ça pour dire qu'on monte haut, hein, puis
c'est la chute après. Tu sais, puis après ça, mais c'est ça, mais c'est comme tu as dit tantôt, c'est qu'après ça, tu as un nom, mais dans le cas d'avant qu'on explose, ben là, ça a été un nom pendant un an dans tous les fucking festivals. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, tabarouette, tu sais, c'est fou comment la décision de quelques personnes peut changer drastiquement la vie d'un film, tu sais, après, tu sais, veux pas... Après, les autres festivals regardent un peu ce qui se passe à Cannes. Fait que ça veut dire des sélections dans d'autres festivals. Ça veut dire que ton film voyage quand même. Puis même ici, ça fait de la pub pour ton film. Ça fait pas vendre peut-être énormément de tickets, mais quand même, tu sais, ça fait un mini buzz. Le monde en parle plus, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est
ça. Mais tu sais que t'as des chances d'être financé pour ton prochain projet aussi quand tu vas à Cannes.
Oui, mais c'est oui, absolument.
C'est ça que tu veux. Tu veux vendre des billets, mais tu veux surtout pouvoir continuer à faire des films.
Mais tu veux les deux. En fait, si ça marche, c'est soit tu as un succès à l'international ou bien soit tu fais du gros box-office ici. Tu sais, quand tu es dans une. Tu te ramasses entre les deux puis que ça fait pas de festival puis que tu fais pas une espèce de gros box-office, mais évidemment que tu es comme bon, mais ben Chris, on dirait que j'ai blowé mon affaire puis que tu penses rien qu'à ça puis tu es comme bon, mais ben, c'est un film de merde. Tu sais, mais. C'est poche de penser comme ça parce que c'est pas vrai, tu sais, il y a quelque chose de... Mais la façon que le système est fait, on dirait que t'en viens vraiment à sentir ça. C'est comme, bon, mais j'ai pas l'approbation à l'étranger, j'ai pas l'approbation ici tant que ça, mais en même temps, tu sais, quel film fonctionne ici au box-office? C'est une autre affaire.
Une espèce de système un peu mathématique, un peu compétitif, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tu veux cocher dans une des trois cases, là, et ouais. Idéalement plus, là. Heureusement, je pense, dans votre cas... dans ton cas, mais dans votre cas, parce que des fois, tu travailles avec des amis, puis tout ça, mais au moins, l'engouement, l'enthousiasme, la critique est derrière vous, puis ça, c'est
ouais,
bien.
Oui, absolument, c'est ça.
Fait qu'au moins, il faut cocher une des trois, sinon après, on risque de se faire oublier, puis c'est dur à prendre, vraiment, tu sais. Mais là, on parle de...
Une des trois, mais il y a un quatrième, c'est le respect de ses pairs aussi, tu sais, ben qui est comme...
Ouais, mais ça, ça fait pas travailler.
Oui, mais
non,
respect
ça fait
de
pas
pairs...
travailler, mais c'est dans le cœur d'un être humain.
Honnêtement, ça se passe là, dans le milieu quand même. Là. Quand t'as un film là, qui sort, qui a essayé une coupe de festival, qui a été pris dans aucun festival, tout de suite, le buzz, c'est que, c'est que ça doit être de la merde. Mm-hmm. Il y a comme... C'est un milieu un peu malsain, on va pas se le cacher, là, mais il y a ça. Là, quand tu vois que le film se promène un peu de temps en temps, t'es comme, oh shit, en vrai, il a pas été pris là.
Il doit avoir une raison.
Il doit avoir une raison, c'est peut-être parce qu'il est pas si bon que ça. T'es comme, ben,
c'est
peut-être
mon
que c'est
film
juste
qui
parce que Chris,
financé
c'est une
loterie. À Sadek.
Ouais, c'est juste parce que c'est une fucking loterie aussi, les festivals internationaux. Ouais. Maintenant, ça dépend du mot de genre 4-5 personnes d'une salle.
Ça se peut que ton film, personne n'ait vraiment vu aussi, puis qu'il soit passé dans le crack.
Pour vrai, petit frère, c'est drôle, il y a une anecdote qui concerne justement Raphaël, parce que j'étais un gros fan de Last Detail de Al Ashby, ou Ashby, je sais pas comment on prononce.
C'est un film?
C'est un long métrage, puis il y a Jack Nicholson dedans, puis j'en avais parlé à Raph, puis Raph m'avait acheté un t-shirt de Jack Nicholson dans The Last Detail, puis c'est le t-shirt que je porte dans Petit Frère. Puis quand le sélectionneur de Cannes a vu genre le premier frame, tout de suite, il nous l'a dit, là, il a fait « Déjà, je savais que vous aviez du goût, puis déjà, je savais que le film allait se rendre à la fin. » C'est après ça que tu te dis comme « Bon, j'imagine qu'il a aimé le film t'sais, mais de la façon qu'il en parlait, le chandail t'sais, a fait une différence énorme. » Fait que même, t'es comme « Chris, quand un chandail fait une fucking différence sur qu'est-ce qu'ils prennent dans les festivals, on peut-tu s'entendre que c'est rough, t'sais, rentrer dans les festivals, peu importe la qualité de ton film, peu importe ce qui se passe, puis ça reste une chance énorme d'avoir une place dans un des big three ou bien des big four.
T'sais. Parce que la putain de loterie, elle commence au développement. Après ça, elle continue au financement. Ouais. Après, c'est dans les festivals. Après ça, c'est à quel moment ton distributeur va décider de le sortir puis quel effort va mettre. Fait que c'est une loterie tout du long. Là. Je sais bien que ultimement le talent va te permettre d'avancer, mais il y a bien des affaires talentueuses puis bien foutues qui s'écrasent pour presque rien. Mais... Tu as comme skippé pour moi, je pense, en tout cas, tant qu'à parler de festival, mais Prank arrive quand même avant qu'on explose.
Ah oui.
Avant qu'on explose, en plus, deviez penser d'avoir une bonne oreille quand même qui vous attendait à Venise. Puis,
Après
ça, c'est une grosse sélection qui vous a surpris aussi. Là.
Ben, ça
c'est pas le même réel.
C'est pas le même réel. Puis, tu sais, à la limite, à Venise, ça nous a ennuyé. Je sais pas, mais tu sais, ça reste. Ça, c'est comme une autre affaire, Prank. T'sais. C'est vraiment ça aussi, c'est une espèce d'addon. Là, tu regardes, je regarde le film encore, puis je suis comme Chris, c'est quand même allé à Venise. Mais ça, c'est encore un film qu'on a fait avec 10 000$ qu'on savait pas trop. Puis qu'on... Pour vrai, la première affaire qu'on s'est dit quand on a fait Prank, c'est. Si au final j'ai un DVD que je peux montrer à du monde, je vais être heureux. C'était ça
une
l'objectif.
Projection,
On était toute la gang, on approchait nos 30 ans, on disait comme Chris, c'est poche, on n'a pas fait de long métrage, il me semble, on va pogner le 30. Ce serait le fun de faire un long métrage. Puis là, on a écrit un scénario sur une petite idée que Vincent avait eue, c'est une gosse, on a écrit ça en 2 mois, tout de suite.
C'est
après,
ça, c'est Vincent tournait. Qui vous a demandé d'écrire vous
ben, c'est, Vincent
quoi,
Biron. C'est Vincent Biron qui a fait. J'ai une idée, c'est des jeunes qui font des mauvais coups. Là. En gros, c'était un peu ça.
Je pense qu'il y avait... c'est quand j'étais jeune, c'était les idées que j'avais aussi. Là,
non, mais il avait été faire des pranks avec une gang, puis il avait trouvé ça fucking cool. Puis il disait que, tu sais, puis il y avait déjà un peu la façon de voir le film de genre, on a une histoire qu'on suit, mais des fois on rentre aussi dans les pranks, puis on s'attarde surtout des fois à l'aftermath du prank, ou bien genre avant le prank. Tu sais, il y avait quand même des idées
c'est
par rapport
à ça. C'est
quel genre
de personnes qui font des pranks à répétition sont peut-être malsaines aussi.
Vu que c'est ça des kids, tu sais, puis bon, on parlait justement de ces influences, puis tout ça, mais ça a été tellement fait rapide, puis ça, on avait été présélectionné genre à Berlin.
Ah oui.
Ouais.
Wow.
Puis.
N'as-tu nommé. T'as écrit ça avec.
J'ai écrit ça avec Alexandre Auger puis Marc-Antoine Rioux.
Okay. Comme les barbares de la Malbaie, c'est le même
trio. Malbaie, exact,
c'est rare, trois scénaristes, pareil.
C'est rare, mais nous autres, ça marche. Oui. Ça. On travaille bien ensemble. Mais ça, ça avait été présélectionné à Berlin. Puis tu sais, on dirait qu'on était comme « what the fuck ». Puis là, on avait eu un nom, puis on était bien déçus. Mais tout de suite, Venise est arrivé tout de suite après. Puis ça a marché, mais... T'sais, pour moi, c'est une autre affaire. Avant qu'on explose, c'était comme...
Non, mais attends un peu. Là. Je veux que tu parles de Venise quand même. Là. Les gens ont plein de questions de ce qui s'est passé là-bas. Là. Il y a eu des images qui ont apparu dans les médias québécois de votre voyage à Venise. Je sais pas si ça nous raconte un peu. Ou...
Non, mais post-MeToo, ça marche plus, ces affaires.
Ouais, mais il faut quand même le raconter.
Ça se Google, en tout cas.
Ça se Google. Non, mais encore là, tu sais... Je pense que
tu le raconteras pas?
Oui, je vais le raconter. Okay. Mais je pense qu'il y a une naïveté encore là. Tu sais, on est arrivé là-bas, puis c'était... dans un prank, le film se termine, puis il y a une grosse banderole avec un pénis, genre de... Je pense que c'est 8 pieds, whatever. Tu sais, comme ils font un coup, puis ils accrochent une banderole avec un gros pénis bandé sur un pont. Puis on a pris cette banderole-là, puis on l'a mis dans l'avion, puis on l'a amené à Venise. Puis on a fait... On va se promener avec... ça pour amener du monde dans la salle, pour faire parler de notre film, parce que Chris, ça reste un festival, tu fais des stunts, mais aussi pour... On s'amuse, mais là, ça donnait que c'était pendant la première du Sorrentino, le
New Pope,
le truc sur le pape...
The Young Pope?
The Young Pope. C'est ça, Sorrentino?
Ouais.
Mais en tout cas... Puis, fait que là-bas, quand ils nous ont interceptés, les gendarmes italiens, ils pensaient que c'était comme on protestait contre quelque chose, puis ils pensaient que c'était comme un stunt, fait que tu sais, ils nous ont comme tout de suite arrêté, genre ils ont pris les passeports de ben du monde, fait que là, ça a été comme une espèce
vous
d'événement
des prisonniers politiques
ça a été
pendant
un événement
un
diplomatique,
instant.
Ouais, où est-ce que
la pensais que c'était un pénis de cardinal là, ou d'évêque là.
Ouais,
vous étiez fait, des homosexuels en
mais
fait.
Il y avait quelque chose là, ils pensaient qu'il se passait quelque chose là, fait que mais tu sais ça on était arrêté puis finalement ils ont juste confisqué la banderole puis ils l'ont redonné le lendemain là, mais ça a pas été ça a pas été si gros événement mais
mais il y a des articles de journaux au Québec. Il y a eu
Marc-André Lucier était là-bas, fait qu'il en a fait un article après pour dire tout ça. Puis ma mère était extrêmement gênée. Ma mère était très déçue, pauvre elle. Mais c'est quoi cette affaire-là de se traîner avec des pénis?
Tu vas en Italie,
non? Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça parce que c'est punk, mais aussi. C'est ça, faut trouver des façons de faire voir nos films. Puis tu sais, il y a tellement de cinéma qui se tourne. Puis dans les festivals, faut se démarquer aussi. Il y a des festivals, bon, les films sont sold out, peu importe c'est quoi le film, tu sais, je veux dire, il y a des salles, il y a des moments, il y a des cases horaires, mais sinon, faut que tu fasses ta place, faut que tu te démarques, là. Tu sais, moi, j'en ai fait des festivals avec 8 personnes dans la salle, ça veut dire, à Venise, je pense pas que ça se puisse, mais ça peut t'arriver pareil dans la vie. Mais moi, je trouvais ça vraiment, tu sais, c'est comme la passion continue, tu sais. On est encore dedans, puis on va le vendre, puis on va en parler, puis ça, c'est cool.
Mais moi, mon prochain court-métrage ou mon prochain film que je tourne, c'est clair que je fais un saut en parachute de la place Ville-Marie. Puis aussitôt que les micros m'arrivent d'en face, c'est aller voir mon film.
C'est
monde,
juste ça, Star. C'est juste des stunts. Ça fonctionne par stunt.
Mais ils l'ont fait dans les pieds dans le vide, puis ça n'a pas nécessairement fonctionné. Là,
mais tu sais, après, c'est vrai ce que tu dis tantôt, par exemple. C'est pas nécessairement que je m'attendais qu'il allait se passer quelque chose avec avant qu'on explose après ça, mais c'est juste, tu sais, tu vas à la semaine de la critique de Cannes, après ça, premier long métrage que tu participes, ça en va à la semaine de la critique de Venise. Ben oui. Tu sais, c'est comme un back-à-back que t'es comme gonflé, pis t'es comme holy shit, tu sais.
Puis en plus, prank pis petite phrase, c'est des trucs que vous avez tourné comme pas de budget, ouais, entre amis, pis là, vous faites votre film financé.
Ouais, c'est ça,
plein de vous avez pris le temps d'écrire, que vous.
C'est certain que, tu sais, la descente est plus rough, là. C'est certain que tu fais comme, ah, ok. Mais en même temps, rien n'est gagné. Puis c'est une belle leçon d'humilité aussi. Puis ben, t'es comme. Puis les Barbares, c'est la même affaire. T'sais, en ce moment, il n'y a pas de gros festival pour le film. Puis ben, t'es comme, oh, mais écoute, ah ouais? Non. Puis ça fonctionne pas. T'sais, à date, on n'a pas de sélection. On attend encore des réponses. Mais. Puis ben, t'es comme, ben, gars, tu sais. C'est des locks.
Avez-vous un succès populaire? Parce que moi, je l'ai vu. Puis je m'attendais à un succès populaire pour après l'avoir.
Pas mal,
vu,
On sait jamais.
Tout le monde qui l'ont vu s'attendait
à ça. Mais ça a tombé dans les cracks encore. Un peu la même affaire qu'avant qu'on explose. Fait que ça a été comme une. Ben, c'est tout le temps rough, là, mais moi, l'année passée, en tout cas, deux films que j'ai. Un scénarisé, l'autre co-scénarisé, qui ont tombé un peu d'une craque, pas de festival, pas tant de public. Ben, comme, oh,
c'est... Mais entre les deux.
Ben, au moins menteur entre les débats. Deux.
C'est ça, c'est schizophrénique un peu.
Toi, t'as rencontré Émile Gaudreau, t'es devenu un de ses collaborateurs. Je sais pas si tu nous parles de ça parce que Émile Gaudreau a fait. Les plus gros succès de blockbuster de l'histoire du Québec.
Mais Émile, ça a été. Mais en fait, Émile, c'est venu de la télé, en fait, quand j'avais écrit en télé sur SNL Québec. Puis lui, il avait écrit à la script éditrice qui était José Fortier, parce qu'il avait bien aimé ça. Puis il a dit, c'est qui vos writers là-dessus? Parce qu'il avait besoin de monde pour pitcher des gags sur son adaptation française de Père en flic. Puis je l'avais rencontré, on s'était super bien entendu, puis j'avais pitché des gags, il avait retenu, tu sais, mais c'était vraiment une collaboration qui était le fun, on s'entendait bien. Puis quand après ça, j'ai eu Petit Frère qui était à la canne, tout ça, fait que là, il comme vécu ça un peu, il était bien content pour moi. Puis quand il est venu le moment d'écrire De Père en flic 2, il nous a demandé straight up à moi, puis Ravary, Sébastien Ravary, si on voulait l'écrire avec lui. C'est pas juste pitcher des gags, mais vraiment.
Sébastien
comme...
Ravary, c'est un de tes amis, un de
Sébastien Ravary, il écrivait aussi sur SNL Québec.
Ah, il l'avait rencontré aussi comme
ça. Fait que. Mais même Ravary, je pense qu'il l'avait vu un petit peu avant parce qu'il avait brainstormé des jokes sur le sens de l'humour, en tout cas. Mais tu sais, il travaille souvent avec des gens qui brainstorm un peu avec eux, puis il prend des gags, puis il rémunère tout ça. Mais nous autres, il nous avait approché après ça pour écrire avec lui. Puis ils nous avaient redemandé après ça. Ça s'était super bien passé sur De Père en flic 2. Puis ils nous avaient redemandé pour menteur.
Mais ouais, mais De Père en flic 2, comment ça s'est passé? Parce que ça a été un succès vraiment immense.
Ça s'est passé.
C'est quoi, comment travailler avec Émile Gaudreau? C'est dans le sens où ça a dû être cool aussi dans ta vie de tomber là-dessus.
Ah ouais, absolument. Pour moi, c'est une chance énorme parce que ça me permet. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'étais quand même chanceux parce que j'avais des projets plus de cœur, d'un sens qui était plus mes projets un peu d'auteur.
Personnel.
Puis après ça, j'avais de l'autre côté que j'avais la chance avec Émile de faire des projets vraiment. Tu te poses pas de questions. C'est des films grand public. Ton objectif, c'est de torcher le box-office, tu sais. Puis. Émile, tu sais, lui, il a quand même, c'est des films plus personnels pour lui, mais tu sais, moi, quand je rentre là-dedans, c'est ma chance avec mon humour puis des choses que j'apporte d'aller toucher un fucking large public, tu sais.
Grâce à ça, tu participes presque à la québéquitude de notre époque, tu sais, parce que c'est des films que tout le monde a vus, tu sais.
Mais c'est ça, mais c'est rare que tu aies la chance, tu sais, de faire. Je vais embarquer dans quelque chose qui. Va parler à peut-être 1 million de personnes, tu sais, au cinéma québécois, c'est huge en mousse. Ben, pas 1 million de personnes, tu sais, il l'a fait avec De Père en flic, tu sais, avec Menteur, puis De Père en flic 2, c'était plus 600 000, mais reste que, tu sais, c'est des gros chiffres pour le cinéma québécois. Mais c'est juste une chance que, tu sais, c'est un exercice pour moi qui puis il travaille avec Émile, il nous laisse, tu sais, c'est pas juste, genre, ben, vous êtes là, puis... vous sortez quelques gags, tu sais, il veut vraiment qu'on travaille avec lui, qu'on remette en question, on travaille sa structure avec lui, puis quasiment à toutes les étapes, tu sais, si on pouvait être là tous les jours sur le tournage, il serait super content. Des fois, il nous texte la veille qu'il tourne une scène, parce que quand même, il semble que cette scène-là ne fonctionne pas, il nous amène en post-prod, il nous amène en montage, tu sais, on voit beaucoup de cuts, puis on... on retravaille même en ADR, tu sais, des quand on refait des voix. Encore là, on les écoute. Il nous inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est super généreux, tu sais, puis c'est, ouais, c'est moi, de c'est pouvoir faire les deux, tu sais, il y a quelque chose de vraiment le fun.
Puis t'as ta place aussi. En tout cas, peut-être je me trompe parce qu'on n'a jamais parlé de ça, mais je fais des liens quand même entre Avant qu'on explose puis Menteur. Il y a bien des affaires, je trouve, qui sont... Puis c'est pas que c'est des redites, là. C'est juste que je vois le même gars, en fait. Puis c'est intéressant, tu sais. Fait que vous êtes pas... T'es pas mangé par Émile. T'es pas mangé par...
Tu trahis pas,
par le producteur,
là, non, ben c'est ça. Mais c'est ce qui est le fun avec Émile, tu sais.
C'est pas ça qu'il veut, aussi.
Ben, tu sais, déjà, moi, en partant, j'étais content de faire participer à ça. Mais en plus, là, c'est que tu participes en crise parce qu'il te laisse de la place, tu sais. Après ça, oui, c'est lui qui chapeaute, là. Tu sais, ça reste son film, ça reste ses affaires. Puis c'est lui qui va avoir le dernier mot, mais tu peux fighter en maudit, puis lui, il aime ça, tu sais, puis il a pas peur de ça. Ça fait que t'as quand même l'impression d'avoir vraiment beaucoup participé, puis des fois, tu sais, juste dans Menteur, Manic, t'as quand même des références dans ce genre de film-là à Total Recall, oui. À, tu sais, à Alien, puis tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est ça que j'ai amené un petit peu, puis je suis comme, Chris, c'est fun, pareil, de pouvoir, tu sais, plugger un petit peu, des fois, justement, juste ma vision de l'humour grand public aussi, que j'essaie de faire aussi dans mes projets plus personnels, tu sais. Avant qu'on explose, pour moi, c'est quand même, pour moi, une espèce de core de comédie grand public, mais avec une certaine sensibilité, mais ça reste que là, je peux faire ça, mais à un niveau bien plus grand, tu sais, puis...
C'est drôle parce que tu dis Alien, puis Total Recall, là, ça vient d'attacher Menteur à Prank, aussi,
ouais,
là,
ouais, c'est vrai.
Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, c'est vrai, moi, en tout cas, j'ai tout vu tes films. Évidemment, personnellement, j'apprécie plus tes films personnels, mais je les ai appréciés aussi, les films de Émile. Puis j'ai pas senti qu'il y avait personne, tu comprends, dans le squelette. Là, fait que c'est vraiment le fun. J'ai tout vu en salle, d'ailleurs.
Ça, je suis content de ça.
C'était-tu des billets de plaisance?
Jamais.
Non, jamais.
Jamais. Même mes points scènes, quelqu'un m'a fait réaliser récemment, prends-les pas pour le cinéma québécois. Je le prends même pas pour le cinéma, je le prends pour le popcorn.
T'es-tu un de ceux qui utilise, genre, il me semble qu'avec ta carte, genre, tu peux être des films gratuits?
Non, je l'utilise pas.
Moi non plus, je l'utilise pas.
Non.
Moi, je suis comme, c'est triché.
Ouais, moi, j'ai une carte cadeau de Cinéplex Odéon, puis j'étais comme, genre, OK, je vais aller voir Endgame avec ça au Cinéplex Odéon. Puis là, j'ai jamais été. Après, j'étais comme, hey man, je vais aller voir Star Wars, man, avec ça. Puis finalement, elle traîne sur mon bureau depuis un an et demi. Est sûrement expiré, puis j'ai comme jamais été. On dirait que j'aime ça, les petites salles, puis le cinéma d'auteur, le cinéma québécois, tu sais, on dirait que, tu sais, je suis comme... Puis pourtant, j'haïs pas Star Wars. En fait, je suis un esti de gros fan de Star Wars, tu sais. Mais on dirait que si je me déplace, il y a comme un côté éthique qui vient avec, mais qui est inconscient un peu, tu sais, parce que techniquement, je donne juste de l'argent à des films d'auteur. Ou... Mais... Ouais. Toi aussi, tu nous as parlé de ton inspiration de films d'auteur pis tout, mais je pense qu'un des trucs qui te définit, c'est aussi ton amour du cinéma populaire. Tu sais, t'en as pas tant parlé aussi, mais je pense que t'as comme un rapport avec le cinéma populaire.
Mais il y a eu ça.
Puis le cinéma d'auteur pointu.
Mais ça a été comme une espèce de shift dans ma vie. Quand je suis arrivé au cégep, comme je parlais tantôt, le prof nous cassait tout de suite en partant en disant « Ce que vous regardez, c'est un peu de la merde. » Il nous parlait de Forrest Gump. Après ça, ben, Forrest Gump, vous aimez bien ça, mais après ça, en arrière de Forrest Gump, c'est telle philosophie, puis c'est un peu très de droite, puis c'est très « Suis le gouvernement, ferme ta gueule. » Puis il nous apprenait vraiment à décortiquer les films, puis avoir un peu le message en arrière des films, puis le message en arrière des grosses machines populaires. Puis maintenant, t'en viens nécessairement à... devenir un petit peu pointu dans ce que tu consommes, puis c'est une étape qui était quand même super importante, puis c'est là que j'ai comme pu encore plus aller creuser, puis voir des trucs développer encore plus une cinéphilie plus pointue encore là. Mais après ça, on dirait que quand je suis arrivé à l'université, j'ai quand même eu besoin de me réapproprier tout ce que j'avais trippé quand même quand j'étais kid, tu sais, ce qui m'avait vraiment amené, genre, ce qui m'amenait à la Malbaie, ce que je gardais dans grosse salle de cinéma quand ma mère me laissait là, ça reste quand même des films qui m'ont touché puis qui ont fait de moi un peu ce que je suis un peu. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, OK, mais non, mais j'aime aussi ça en crise, les gros films qui pètent, puis ce genre de cinéma-là, puis la grosse comédie. Puis on dirait que pour moi, un des déclics qui est un peu entre les deux, c'est quand j'ai vu Knocked Up de Judd Apatow, qui est une comédie genre... très populaire, mais qu'après ça, tu vois, dans ses influences, qu'il y a du James L. Brooks, puis qu'il y a des trucs vraiment plus, tu sais, personnels, tout ça, puis ça reste qu'il y a une espèce de cinéma d'auteur, mais vraiment populaire. On dirait que ça a vraiment forgé, là, OK, comment je vais aborder la comédie, puis ça m'a vraiment parlé, puis ça rejoignait un petit peu mes les deux affaires que j'avais, en tout cas. Fait que c'est comme... C'est, il a fallu maner que je mette de côté un peu ces influences-là pour me les réapproprier après, puis dire tout haut à l'université que je les aime, style.
Mais encore c'est là, c'est pas précoce, là, je trouve. Comme ce que tu dis, je l'ai vécu à ma façon, puis sur des années, en fait. Toi, c'est comme secondaire, université, pouf, tout est là. Parce que moi aussi, j'ai eu un 10 ans, j'appellerais pas ça, je sais pas comment je le nommerais, mais un 10 ans de cinéma d'auteur pointu, là, tu sais, avec ben, mon guide à travers cette forêt-là. C'était beaucoup Denis Côté, ben ouais. son compagnon d'armes. Et à un moment donné, j'ai fait comme non, faut pas que j'oublie quand même. A Few Good Men, tu sais, puis Jerry Maguire, c'est ça aussi, tu sais.
Ça, c'est le cinéma populaire selon Raphaël. Back to the Future ou Terminator, ah, ben, là, aussi, c'est A Few mais, Good Men.
Je suis moins dans cette nostalgie-là, mais un cinéma complaisant à ses heures, un peu plus sirupeux, ou en tout cas, tu sais, un peu plus.
Dans les petits sentiments, là, dans les bons sentiments.
Ouais, puis c'est bon d'y revenir quand même, puis après ça, de trouver l'équilibre entre les deux, mais ma passe. Adolescente ou rebelle, tu sais, je l'ai vécu à l'âge adulte, en fait. Fait que moi, je suis revenu dans mes vrais tripes, en fait, d'origine, là, tu sais. Ouais. Après ça, tu trouves la bonne balance entre les deux.
Ben, tu vois, moi, j'ai eu une discussion avec Alexandre Auger, là, genre un an après qu'on avait été voir un film de Paul Schaeffer au FNC, la gang, au cinéma moderne. Schrader, oui, il était venu présenter à moitié mort, en fait, sur le stage devant nous. Je ne savais pas si elle s'en sortir vivant, mais... Puis après ça, il parlait, il disait, tu sais, man, moi, genre, le cinéma d'auteur puis le cinéma populaire, il y a des bons films dans les deux, puis tout. Puis j'étais comme... On parlait de ça, puis je me rendais compte à ce moment-là que j'ai commencé avec le cinéma populaire comme enfant. Après, j'ai découvert le cinéma d'auteur, puis j'étais comme, OK, man, il y a une esti de hiérarchie, là. T'as comme... Le cinéma populaire qui est au plancher des vaches, puis après, t'as comme le cinéma d'auteur qui touche les étoiles, tu sais, puis qui s'envole dans le ciel.
En même temps, je serais quand même curieux de dire ça, mais qui a été mon premier film que j'ai vu, c'est un fucking Bergman, tu sais.
Non, non, mais attends un peu, c'est qu'après ça, j'ai eu un renversement. Après, j'ai eu comme cette idée-là, comme, tu sais, j'ai redécouvert Terminator 2, j'ai redécouvert toutes les Aliens, et tu sais, plein d'autres films comme ça. Puis aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin de le dire. Je pense que Bergman va toujours être supérieur à Alien. Mais j'ai un grand plaisir avec Alien, puis quand je parle d'Alien, je vais vraiment en parler avec passion, genre. Fait que j'ai pas besoin d'établir de hiérarchie, ou j'ai pas besoin de dire « Ah, il y a une dichotomie entre les deux » ou quoi que ce soit. Pour moi, tu sais, il y a comme du grand cinéma, puis il y a du cinéma qui est aussi le fun à regarder, mais veut pas, dans sa nature même, va moins m'apporter que...
Mais oui, puis quand on faisait la promo de Prank, il y a justement Vincent Biéron qui était un peu sous cette vision-là, puis... qui était venu avec un concept de cinéphilie genre horizontale au lieu de verticale, tu sais, où est-ce que tout est un peu... Il n'y a pas de hiérarchie, tu sais. C'est pour ça que dans Prank, il y avait justement, tu sais, on parlait de... Il y avait justement Highlander, puis il y avait Die Hard, puis ces gros classiques-là, mais en opposition avec Le Cheval de Turin, tu sais.
Oui.
Alors que, tu sais... Eux regardent ça batté, ils disent que c'est de la merde, mais tu sais, je veux dire, on a un amour pour Le Cheval de Turin, c'est juste que ça reste des kids, tu sais, dans le film, c'est des kids qui sont devant quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Tu sais, on parlait en début de podcast, il faut que quelqu'un te prenne par la main. Tu vas pas commencer par Le Cheval de Turin, tu vas commencer par fucking E.T. ou whatever. Ouais, ouais. Ou,
c'est le premier film que j'ai vu. Dans le premier podcast, on a parlé d'E.T., j'ai jamais pu placer un mot, ça allait trop vite. Le premier film que j'ai vu, j'avais 2 ou 3 ans parce que j'habitais encore dans l'appartement de la rue Cassegrain. J'ai été voir E.T. puis j'ai fait des cauchemars pendant à peu près 4 ans après, mais c'est le premier film que j'ai vu. Je voulais juste pour les auditeurs qui ont été le premier podcast.
C'est pour ça que j'ai de la misère avec ceux à qui tu jases, puis qui comme, bah, tu sais, cinéma populaire ou le cinéma divertissement, mais ben, moins pour moi, j'en peux rien à battre. Mais comme, mais Chris, c'est renié quand même. J'ai l'impression une partie assez importante de ce pourquoi t'es peut-être dans ce milieu-là, mais que t'es en amour avec ce médium-là, mais tu sais, je peux pas croire que t'as pas eu comme une espèce d'escalier qui t'a amené vers là, puis c'est comme renier toutes les marches. T'sais.
Moi, j'ai comme un sentiment que quand on dit « Ah, oh, les prétentieux du cinéma » ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est un dialogue plus intérieur qu'on a.
Non.
Y en a-tu tant que ça des vrais prétentieux du cinéma? Y en a peu. Puis c'est pas eux qui ont le pouvoir, genre.
Y en a peu, mais tu sais, juste... En tout cas, c'est tout autre débat, mais tu sais, même juste mesdames dans le milieu, tu sais, juste de moi d'aller travailler sur des films populaires comme The Père en Flic 2 ou Menteur, t'as quand même souvent un jugement, tu sais, par rapport à ça, un jugement de valeur. T'es comme, voyons, Chris, tu sais, OK, fine, peut-être que t'aimes pas ce genre de film-là, mais moi, je le voyais comme pas craché sur mon amour du cinéma, mais au contraire, c'est de rejoindre beaucoup de monde qui... Ben, tu sais, moi, si je peux parler un petit peu à travers ça à bien plus de monde, il y a quand même quelque chose de le fun là-dedans, tu sais.
Puis c'est des films respectables aussi. Ben, c'est écoute, pas des navets,
moi,
là,
trouve,
dans le sens...
Il y a du monde qui montrait que c'est des navets, puis c'est pas grave, ça reste... là, tu sais. C'est pas ça le point. Le point, c'est que je pense qu'il y en existe une espèce de...
Ouais, c'est sûr.
Il y a un jugement des fois. Non, c'est sûr que c'est pas répandu, mais...
Ben, non, mais c'est... T'as le clivage, là, tu sais, on le vit avec la télé versus le cinéma aussi, là, tu sais, mais, ouais, mais, ces étiquettes-là, on les porte comme cinéaste, on les porte aussi comme cinéphile. Moi, ma mesure à moi, c'est est-ce que le film arrive à être ce qu'il désire être, premièrement? Ouais. Ça, quand ça fonctionne, je suis prêt à pardonner à peu près n'importe quoi. Puis après, ben, il faut vibrer. Moi, j'ai juste allergique un peu des fois à la poudre aux yeux. Là. Je pense que c'est ce qui...
Mais toi, même dans le cinéma hyper pointu, la poudre aux yeux, tu l'acceptes
pas? Ça, je la blaire pas, mais en même temps, c'est très relatif. Là. C'est subjectif. C'est juste mon point de vue à moi. Je peux me tromper à 1000%. Mais pour moi, A Few Good Men, pour moi, mettons, je reviens à lui, là, mais c'est un film parfait dans son genre, dans ce qu'il veut être. Il est parfait. Après ça, je donnerais-tu 10 sur 10? Peut-être pas parce que j'ai un certain snobisme intérieur, là. Mais je veux dire...
Faut garder le 10 pour...
Mais lui, je veux dire, dans ce qu'il essaie d'être, ce à quoi il aspire, là, il réussit complètement son pari.
Mais je suis sur un réseau social depuis peu longtemps qui s'appelle Letterboxd. Uh-huh. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme un genre de Facebook, mais où est-ce que tu dis quel film t'as regardé, puis tu peux faire des petites critiques, puis tu peux... C'est un système de pointage de 5 étoiles, mettons, puis t'as les étoiles et demi, tout ça, puis... Fait que t'en viens à mettre des notes sur toutes les films... époque confondue, style confondu, puis ça devient vraiment un exercice de faire, OK, dans ma tête, tu sais, quel film par rapport à ça, tu sais, c'est-tu un meilleur film, ou bien, puis je trouve que l'exercice est intéressant de mettre, tu sais, tu dis de pas mettre, je mettrais-tu 10 sur 10, mais en même temps, tu sais.
Ben, tu donnes, tu sais, je veux dire, si je mettons, je vais être vraiment honnête, là, je donne combien à Rocky 4, tu sais, je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, mais je l'ai vu tellement souvent, je connais toutes ses qualités, ses défauts. Ce film-là réussit son pari d'une certaine manière. Moi, personnellement, si je suis seul chez nous, là, les lumières fermées ou les fenêtres fermées, plutôt, je lui donne 4 sur 5. Là.
Oh, ouais.
Mais je sais que ça vaut pas ça. Mais, fait, moi, Letterboxd, je n'ose pas trop ma boîte.
C'est si tu mets 4 sur 5 à Rocky 4, tu vois ça, c'est qu'est-ce que tu vas. Mais après ça,
qu'est-ce qui reste pour Tarkovsky?
La police va pas cogner à ta porte pour te mettre les manettes parce que tu as mis 4 sur 5 à Rocky 4.
Ben, tu ris, mais j'ai une amie. Je fais une petite aparté, mais j'ai une amie présentement qui est en train de se taper toute la discographie de Bowie, puis qui est avec son chum, puis ils mettent des notes sur 5. Puis en parallèle, ils sont en train de se taper le top 500 du Rolling Stone, la revue, puis ils font le même exercice. Puis moi, faut comme je peux pas croire vous donner la même note à un album mineur de Bowie qu'à Abbey Road, tu sais. Puis ils font comme, mais attends un peu, là, tu sais, c'est une...
Ah, mais c'est un crime, ça, là. Ils ont comparé un album mineur
non,
de Bowie
pas,
à Abbey Road.
Non, ils comparent pas, c'est que eux, ils l'écoutent, tu sais, tu l'écoutes, tu peux pas donner... T'sais. Si t'as donné 4... À Abbey Road, faut-tu que tu donnes absolument 3 ou 2 au Bowie mineur?
Ben, si tu donnes 5 à Abbey Road,
fait
c'est
que
ton être
non, mais tu comprends.
Légitime.
Fait
c'est ce 5 maudit, à Abbey Road, voyons.
Ce système, 5 à Revolver. Tu donnes 5 à tout. Tu donnes 5 à toutes les Beatles.
Ce système-là de toiles. Mais moi, j'ose pas trop, je sais pas. Je
tu fais comme la presse, tu donnes 3 étoiles et demie à toi.
Ouais.
C'est ça le plus simple.
Ça, c'est très simple. Non, mais non, je suis trop orgueilleux pour aller sur Letterboxd. J'ai pas envie que les gens sachent... À quel rythme genre, je consomme quoi?
Il y a
puis...
tellement pas grand monde que moi, ouais, c'est comme, tellement pas mainstream.
Mais beaucoup de monde
comme...
qui me demande, hey, viens nous rejoindre.
Des fois, je me permets même d'être un peu mean, ce que je fais jamais. À cause que.
Enfin,
quand t'es un petit peu dans le milieu.
Depuis
le
temps qu'on en parle, qu'Éric Kamalabulian, il est méchant. Ça se fait sur Letterboxd.
Le plus méchant, c'est sur Letterboxd que je peux me trouver.
Y a-tu un film, t'es-tu abonné à Criterion Channel, à Mubi? Y a-tu un film que tu conseillerais qu'on peut voir là-dessus?
Je suis pas abonné. Je sais que. Dernièrement, j'ai entendu dire que sur le Criterion Channel, il y avait Atlantic City de Louis Malle. Je ne sais pas s'il est encore là, mais j'ai eu vent qu'il l'était. Puis c'est un film pour moi qui est extraordinaire. Mais c'est un film aussi où est-ce que tu as travaillé avec ou
t'es à un degré de séparation.
Ouais. Mais
t'as travaillé avec Louis Malle.
J'ai travaillé avec son directeur
photo. Son directeur photo,
Richard Tchoupka.
Tchoupka, qui est directeur photo, puis qui est produit aussi par Denis Héroux quand même. Puis c'est avec Burt Lancaster. C'est sur une espèce de. Old Timer qui était à Atlantic City. C'est un film vraiment formidable. En tout cas, si tu as la chance de te pogner sur Criterion Channel, moi, ça C'est un film que j'aime vraiment beaucoup.
Richard Chupka, qui est un réalisateur et directeur photo qui vit à Montréal, travaille aussi pour fait trois films de Chabrol, dont deux, je pense, avec Sébastien Huppert. J'ai des blancs, Sophia Loren. Il a filmé Sophia Loren, qui, je me souviens, il m'a raconté une scène où elle chevauche carrément parce qu'il fait le POV du gars avec qui elle baisse. Puis il était hyper stressé. Non, c'est lui qui la chevauche, puis elle fait comme calme. En tout cas, bref, il y a plein d'anecdotes, mais sur Atlantic City, il y avait une grève ou peut-être qu'il y avait eu une inondation ou une tornade, okay. Je sais pas quoi. Puis il n'y a pas de restaurant d'ouvert. Puis il dit que plusieurs matins, c'était Suzanne Sarandon qui faisait le déjeuner, vrai. Qui accueillait les gens dans son appartement ou dans sa chambre, dans son appartement ou sa maison, chalet. Puis, servait le déjeuner à toutes les bonnes parties de l'équipe, là, les chefs puis les comédiens.
Mais Suzanne Sarandon, tu la vois puis tu sais que c'est une bonne personne.
Là, elle a déliré un peu aux dernières élections. Là. Mais ceci dit, vraiment à découvrir le travail de Richard comme directeur photo.
On n'en parle pas en tout.
Moi, je trouve qu'il y a une couple de perles cachées comme ça au Québec.
C'est incroyable.
Je trouve qu'on parle pas souvent de Pierre Mignot non plus, qui tourne encore, mais absolument. Son aventure avec Robert Altman, c'est incroyable. Là, je veux dire, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui en ont fait
moins. Yves Bélanger.
Ils en ont fait moins. Puis,
recevoir Yves, podcast. On va recevoir.
Mais même dans les old-timers, il y a des belles histoires comme ça. Puis Richard...
Chupka. Claude Jutras s'était fait approcher par Kubrick pour tourner la bande-annonce de 2001 du site de l'espace à l'ONF.
Tu vois ça?
Ouais, c'est vrai. Ouais. Eric, t'as-tu des projets qui s'en viennent? Y a-tu des trucs qu'on doit surveiller pour tes fans à l'écoute?
Je sais même pas qu'est-ce que je peux dire ou pas, mais...
C'est l'omerta du milieu. On a l'âme sous la gorge, on a le droit de rien dire.
Encore là, je vais y aller safe. C'est annoncé souvent, mais je travaille sur l'adaptation du Plongeur. On attend.
C'est vrai, le roman. Ouais. C'est qui l'auteur encore du Plongeur?
Stéphane Larue.
Ouais, c'est un roman qui a connu un succès énorme.
Gros best-seller au Québec.
De fiction vraiment classique.
Livre en plus, là. Pas une plaquette. Là.
600 pages plaisir adapté dans un scénario de 120 pages.
Donc beaucoup de producteurs se sont disputés les droits. Ça, c'est ça rare. On n'a pas vu ça souvent. Là. Des gens qui voulaient en faire télésérie, film, un autre film, qui va le faire. C'est quand même ça. Stéphane, t'es un peu dépassé, je pense, par tout ça.
Il y a encore de l'intérêt pour faire de la fiction au Québec, là, quand les producteurs se chicanent pour des droits d'un roman.
Quand il y a un bon livre ou quand il y a un buzz, là, ça, je pense que ça se garoche. Puis celui-là, il a eu un gros buzz sur le Plongeur. Ce qui fait que je pense
puis là,
que
toi,
le
monde... tu travailles sur l'adaptation en ce moment.
Mais on a déjà déposé aux institutions, mais on attend d'avoir des sous pour ça. Fait que ça serait probablement... pense peut-être le prochain film qui se tournerait peut-être un jour. Mais...
Ok, te donne pas de date. Là.
Non, tu es malade. Ça se fera jamais non plus. Okay, on
c'est
pas
un bon système pour donner
des nouvelles. Je sais pas, mais c'est lui qui est le plus proche de peut-être se faire un jour.
Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous voir. Je pense que ça a été un super bon épisode. C'est toujours un plaisir d'être rencontré.
Merci d'avoir
Merci, Raphaël. Au revoir, tout le monde. À la prochaine. C'était notre épisode avec Eric Kamalaboulian. On espère que vous avez apprécié. On le remercie pour sa générosité. Si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à le partager et à vous abonner à vos plateformes d'écoute préférées. Moi, je vous dis à la prochaine fois.
Une production Roméo.